Midi 29 minutes pour ce deuxième segment de l'émission L'épreuve des faits. Je suis rejoint en studio par nul autre que le technicien, directeur technique de la station TFIM,
Monsieur
Paul Turbide. Bonjour.
Bonjour.
Alors Paul, c'est l'une des dernières occasions qu'on aura de t'entendre officiellement en ondes en tant qu'employé de TFIM. Peut-être qu'on va te réentendre éventuellement.
Ah, on ne sait jamais, peut-être que oui.
Alors justement, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu es un employé qui fait partie des meubles à la radio et même plus, parce que d'après moi, tu es même plus d'ancienneté que plusieurs meubles à la station.
Oui, probablement, parce qu'on a déménagé en 89, mais on a peut-être des choses encore qu'on a ici, là, mais je fais partie de cela.
Ben, surtout que, si je ne me trompe pas, tu as même débuté avant l'ouverture officielle de la station.
Oui, c'est-à-dire que j'ai débuté en janvier 81. J'avais fini cégep en décembre 80. J'étais amené aux îles en vacances pour l'occasion. Je cherchais un emploi, mais pas nécessairement aux îles. Chez nous, à la maison, on est 6 enfants. Moi, je suis le dernier. Ils sont tous à l'extérieur. Fait que je me dis, je viens passer les fêtes aux îles, puis je vais aller voir pour une job. Et puis, en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur le conseil d'administration, puis il me dit, on a justement une licence, on a un projet et on veut engager quelqu'un. Et on était 5 sur le projet, si je me souviens bien. Et puis, j'ai dit, on va rester aux îles pour ce temps-là, jusqu'en juillet. Et puis, donc, on a travaillé à la liste d'équipement avec des gens compétents dans le domaine. Et puis, à ce moment-là, on a même travaillé dans la construction de la première station. Et puis, finalement, quand mon projet était fini, j'étais pas sûr si j'allais retourner à l'extérieur. Je me disais, peut-être attendre le projet. J'avais trouvé ça intéressant, quelque chose qui commençait. Et puis, finalement, en septembre, j'ai passé les entrevues et puis, j'étais engagé.
Fait que depuis ce temps-là,
septembre 81.
81.
Fait que, c'est ça, ça fait un bail.
Ça fait quand même un petit bout de temps. Est-ce qu'il fallait pas être un peu fou au début pour croire à la mise en place technique de tout ce que ça impliquait, développer une radio?
C'est un petit peu la jeunesse, l'innocence, un petit peu en disant que, parce que, tu sais, on va faire ça, puis pas nécessairement que c'était pour la vie ou pour faire une carrière ici, on va dire, mais le projet était tellement intéressant, puis moi, la radio, depuis que je suis jeune, m'a toujours passionné. Tu sais, en ce sens, j'ai étudié en électronique, en télécommunication, et puis ma mère écoutait toujours la radio. Écoutait CHNC New Carlisle. C'était la voix maritime, la voix française des maritimes et de la Gaspésie, genre.
Sinon, il y avait Radio-Canada, CBC, sûrement.
CBC, oui, dans ce temps-là, Radio-Canada, il y avait les stations affiliées qu'il appelait. Donc, on avait les Joyeux Troubadours avec un répéteur de CHNT New Carlisle. Donc, c'était Radio-Canada et les stations affiliées. Fait que c'était souvent aussi le local de CHNT New Carlisle qu'on écoutait la musique. Fait que j'ai toujours eu une espèce de ce goût-là de la radio, ça, j'aimais ça. Et puis, donc, quand un projet ici, puis je dis merci aux premiers administrateurs qui ont eu et les gens qui ont initié le projet, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis, ça a parti de là, dans le fond, moi, là, beaucoup de travail amorcé avait été fait avant que j'arrive avec la licence et tout ça. Fait que moi, j'arrivais comme dans le bon moment pour techniquement.
T'es arrivé dans le bon moment pour débuter au niveau technique, mais tu l'as accompagné justement la radio à travers les années. Si on parle de moments forts au niveau de défis techniques que la radio a eu à traverser, qu'est-ce qui te vient en tête?
Les défis ici, c'est l'éloignement. Aussi la banque de connaissances, parce que maintenant on a Internet, on cherche quelque chose, on fait une recherche sur Google, puis c'est là, on fait demander ça, on regarde ça, on fait demander. Dans ce temps-là, c'était le téléphone, les longues licences coûtaient cher. T'as une pièce 5 minutes dans le jour, il ne fallait pas appeler trop. On avait un catalogue, puis le catalogue. Il faut dire qu'à l'époque, les équipements, t'achetais un équipement, c'était pour 20 ans ou 25 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais il reste quand même, il fallait que tu te fies un peu. Fait que c'est dur d'avoir de l'information puis se garder à jour, tu sais. Fait que oui, je sortais, j'allais voir, je faisais demander de la documentation, des livres, mais c'était pas comme aujourd'hui. Ça, c'est un défi. Puis aussi que quand tu avais des pièces, c'est ça, c'était l'éloignement, pas l'avion, il faut toujours prévoir. Mais je pense que dans l'ADN des Madelinos, il y a cette redondance-là de tout prévoir en cas si ça arrive un plan B, un plan C, pour toujours être en onde.
Est-ce que tu as un souvenir justement d'un moment où, disons, tu as des plans de redondance, tu as des pièces de rechange, mais là, et la pièce principale et la pièce de rechange ne fonctionnent pas, et il faut que tu dois te résoudre à faire un bricolage. Ouais, est-ce que ça, c'est arrivé? Et
oui, c'est sûr qu'au début, on n'avait pas toute cette redondance-là. C'est justement, on en avait un peu, tu sais, on avait seulement une antenne, on avait, tu sais, puis on avait eu des problèmes d'antenne à un moment donné. Puis il faut savoir qu'une antenne comme celle qu'on a dans le temps et qu'on avait dans le temps, parce qu'on l'a déjà changé, c'est pressurisé avec de l'azote.
Okay.
Puis, pour pas qu'il rentre une goutte d'eau. Une goutte d'eau, là, ça fait du arcing, ça fait que ça coupe. Ça fait un choc électrique. Puis, ben, il y avait probablement au cours des années une gasket qui a coulé. Puis, il y a été de l'eau dedans. Puis, quand ça gelait, ça fonctionnait bien, mais quand ça dégelait, ça marchait pas. Puis, je me souviens d'avoir été passé le bingo pour contrôler la puissance parce que il fallait que je la baisse. C'était le genre de choses qu'il fallait faire ou encore installer quelque chose à l'extérieur, reproduire, si on veut, un circuit parce que mécaniquement, je ne pouvais pas trouver ce qui se faisait le temps que ça vienne. Là. C'était plus de défi dans ce temps-là d'aller aussi se rendre au site. Aujourd'hui, on contrôle beaucoup, beaucoup à distance.
Ça, c'est pratique aussi. Si on va avec l'aspect, un autre aspect technique, moi, qui m'intéresse, c'est ce qui est au niveau de la station également. Moi, j'ai la chance, là, maintenant, de travailler avec un logiciel qu'on utilise qui me permet de glisser des fichiers audio, démarrer le son, l'arrêter, etc. Il peut jouer la musique tout seul si jamais j'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc, ça peut être bien pratique. Mais la radio a vu passer les bandes magnétiques, les cartouches.
Oui.
Comment on gère non seulement ces différents formats-là, mais la transition d'un à l'autre?
Bien, c'est-à-dire qu'on, comme un peu, étant donné qu'on est éloigné, il faut quand même aller d'une façon assez sécuritaire. Tu sais, on veut être avant-gardiste, mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de stations qui se sont plantées, si on veut, là, avec un système informatique, c'était nouveau, ça ne marchait pas, ça coûtait une fortune. D'autres regardaient, moi, je regardais aller les choses, je peux dire moi, parce que c'est moi qui m'en occupais pas mal. Je regardais aller les choses, j'allais voir des stations, hein, on a eu des problèmes avec ça, tu sais. Puis à un moment donné, mais quand on sentait que ça se stabilisait, puis je suis parti, quand on est parti de bobine, on avait des bobines et des cartouches, c'était tout manuel, tu sais. T'avais une chanson de 3 minutes. Là.
C'est ça, il fallait que tu réussisses à regarder l'horloge, partir la cartouche, tout ça en même temps.
Comme on dit, visser dans sa chaise. Mais c'est ça, fait que pour partir du projet, j'ai fait comme une demande de subvention pour ça avec Gisèle Deras, qui était directrice dans ce temps-là, s'est entendue là-dessus. J'ai préparé le document, tout ça, elle, pour finir le reste. Là, ça. Et puis, finalement, ben, j'ai dit, moi, pour vraiment, si tu veux m'impliquer dans un projet, je veux savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc, j'ai proposé d'aller faire le tour des stations et des revendeurs. On a dit, on est loin, c'est moins Internet, dans ce temps-là, c'est moins fort. Fait que je suis parti et puis j'ai fait le tour du Québec. Et je suis allé en Gaspésie, j'ai vu tous les systèmes d'automation, puis j'avais beaucoup de contacts aussi à Montréal et tout ça, et des radios et des... Puis finalement, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, c'était tout nouveau. Ben, tu sais, je le connaissais même pas vraiment, j'en avais pas entendu parler, mais il y avait un contact que j'avais à Montréal qui m'avait dit, passe me voir, c'est bon, tu sais. Puis on a regardé ça. Finalement, quand on a passé une station qui était en test, on a été impressionnés comment ça fonctionnait, puis tout. Fait que on s'est dit, bon, on peut être une chance. Finalement, Charles Eugène, qui était pas directeur dans ce temps-là, qui était à la vente, il était venu avec moi parce que je voulais avoir quelqu'un qui était un peu néophyte là-dedans. Qui me disent...
Qu'ils soient capables de manipuler.
C'est compliqué, là. Moi, tu sais, même si moi, tu sais, ça fait que finalement, puis à l'Association des radios, il y avait un autre système qui s'appelait Audio World. Puis tout le monde utilisait ça, puis il me suggérait fortement de l'utiliser. Et même le gars de la compagnie m'a téléphoné, il me dit, pourquoi vous prenez pas notre système et d'autres stations? Et ben, parce qu'il est plus performant et puis il y a beaucoup plus, si on veut...
De limitations.
Ouais, non, mais le système, oui, ce système-là, mais c'est ici, ouais, là, c'était en évolution. Tu sais, c'était vraiment fait pour des radios locales. Et puis maintenant, tous les radios au Québec utilisent ça, des stations communautaires. La majorité, on était le premier à l'utiliser. C'est pour ça que quand je te dis qu'il faut se documenter, on est loin... Eh bien, il faut quand même prendre le temps de le faire.
Comment on fait ça pour... parce que là, la radio, justement, tu sais, si je t'entends bien, il faut réussir à la fois à être prudent, pas aller trop vite, mais en même temps, innover. Là, la radio a quand même quelques années derrière la cravate aussi. Et justement, comment on fait pour réussir à innover tout en restant fidèle à soi-même? Parce que ça, des fois, ça peut faire preuve un peu de résistance, là, justement.
Oui, mais tu sais, moi, j'ai toujours... l'important, on a toujours dit, puis je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, Georges Lincoln était directeur de la programmation, puis il disait, l'important, c'est ce qui sort du speaker. Et c'est l'essence de la radio. T'sais, c'est important d'être en onde, et c'est important que ça fonctionne. Ce qu'il y a à côté, c'est bien, c'est beau, ça nous amène des auditeurs aussi, mais l'essentiel, c'est de donner un service. Puis j'ai toujours compris que la radio, c'est la plus grande qualité d'une radio, c'est la fidélité. Donc, on peut s'y fier, on tourne le bouton le matin, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'arrière, on pense que c'est facile, mais allez là, tempête, verglas, coupé, la radio existe, on est en circuit fermé. C'est pour ce lieu-là, moi j'ai beaucoup travaillé à l'évolution de la radio en ce sens d'avoir beaucoup de redondance, des émetteurs qui changent, des antennes, tu sais, investir beaucoup là-dedans, consolider avant de trop s'agrandir. Il faut essayer des choses, mais quand même, c'est important de consolider ce qu'on a, parce que c'est le 92.7, c'est avec ça qu'on vit, c'est ça qui nous fait vivre.
Alors, en terminant, Paul, des projets de retraite et des souhaits pour la radio?
Des souhaits pour la radio, je souhaite que la radio soit toujours autant écoutée, qu'elle soit très une radio de proximité, locale, qu'on entende des gens de partout, de différents emplois, de différents, peu importe, activités. Fait que c'est une radio qui va être ouverte à tout le monde. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et puis, garde sa couleur, ses accents, tu sais, qu'on interview quelqu'un. Moi, j'ai un accent, j'en ai pas honte. Au contraire, je pense que ça envoie de distinction. Je souhaite que ça va rester un peu. Même mes deux filles n'ont pas beaucoup d'accent. Mais c'est ça. Je souhaite que la radio demeure locale, avec l'information locale. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est beau faire jouer de la musique, on peut en écouter ailleurs. C'est beau ce qui se passe sur Internet, mais tout le monde a accès. L'information locale, ben c'est précieux, puis surtout une information de qualité, une information qui a été vérifiée. C'est ça c'est pour ça que n'importe quoi ne se passe pas à ces FM. Là. C'est quand même régi par le CRTC. Là.
Paul Turbide, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour toutes ces années à CFM. Une excellente retraite.
Oui, merci à tout le monde ici qui m'a fait une petite chose tantôt. Merci à tout le monde et à tous les gens qui ont travaillé à CFM. J'ai connu beaucoup de monde ici et aux précurseurs de la radio au début qui ont pensé que ce serait bien d'avoir une station d'île.